Donc j'ai essayé de vous donner une réponse bouddhiste. Mais je voudrais aussi vous donner la réponse d'une bouddhiste. C'est-à-dire une réponse basée sur ma propre expérience du choix d'une voie spirituelle. Mais d'abord, je n'étais pas consciente que je cherchais quelque chose. Je savais, comme je l'ai dit, je savais surtout ce que je ne voulais plus. Et je voulais aussi méditer. Je voulais méditer parce que je voulais apprendre à me concentrer. J'avais l'esprit trop... trop dispersé. Oui, je voulais apprendre à me concentrer. Et donc j'ai appris à méditer dans un centre des amis de l'ordre bouddhiste occidental en Angleterre. Et c'est donc de cette façon-là que je suis rentrée peu à peu en contact avec le bouddhisme. Donc je n'ai pas eu l'impression de choisir, je me suis trouvée dedans, disons, comme par hasard. Un terme qui décrit mieux mon expérience, c'est un terme de réponse ou de résonance, même de reconnaissance ou correspondance. C'était en quelque sorte comme si j'étais chez moi, dans un terrain familier. Et j'étais attirée de façon profonde, intuitive, émotionnelle. C'est en quelque sorte la réponse de la foi, qui dans un certain sens n'a pas besoin de la raison, pour savoir que c'est vrai et noble. Néanmoins, ce n'était pas une foi aveugle. J'avais toujours ma raison et mon expérience sur lequel m'appuyer. L'expérience de ma vie, j'avais appris à faire confiance à mon intuition. Je savais que je n'étais pas naïve ni intempestive. Mais aussi parce que j'étais déjà arrivée moi-même à des conclusions qui étaient en accord avec les doctrines bouddhistes. Et je pouvais dire, je sais que cela est vrai. Cela fait partie de mon expérience. Donc pour moi, il n'y a pas eu tellement une question de choix, de voie spirituelle. En quelque sorte, je suis un peu tombée sur une voie. Le choix fut sans doute plus pour moi entre la façon de pratiquer le bouddhisme, à la tibétaine ou de façon plus occidentale. Et pendant quelques années, j'essayais de parcourir les deux voies en même temps. Heureusement, elles sont parallèles, elles vont dans la même direction, mais elles sont quand même différentes. Émotionnellement, je pensais plus du côté tibétain, mais plus je pratiquais d'une façon ou d'une autre, plus il devenait évident que je changeais bien plus radicalement, que je m'améliorais davantage en suivant la voie, les méthodes de l'ordre bouddhiste occidental. C'est donc cette voie que j'ai choisie pour me conduire à la liberté, au contentement, à la compassion. C'est des aspects de l'état du Bouddha qui m'attirent. Mais ce choix réel, je le fis vraiment qu'après 3 ans de pratique. Donc bien que la réponse bouddhiste à la question « Comment choisir une voie spirituelle ?» est nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes, qu'en notre expérience. J'espère néanmoins, si cette question est la vôtre, que vous vous sentez moins seul avec, plus confiant en votre capacité de faire un choix, et un bon choix, et que vous êtes inspiré par l'idée que ce choix est votre responsabilité, stimulé par le désir de mieux vous connaître dans toute votre grandeur, votre totalité, votre complexité. J'espère surtout que vous êtes plus confiant en votre capacité de faire un bon choix, parce qu'il sera l'expression d'une vision, d'une expérience profonde, de ce qui, pour vous, est vrai et réel. Une dernière remarque. J'ai parlé de choisir avant de s'engager, comme si c'était quelque chose que l'on fait une fois pour toutes. Mais quelle que soit la voie que nous choisissons, et ça peut... c'est quelque chose qu'on peut faire même pas dans le contexte d'une voie spirituelle. Je crois qu'il est important de continuer à nous poser les mêmes questions qu'au début. Quel est mon but? Pourquoi est-ce que je fais ça? Ce que je fais m'y mène-t-il? Une voie spirituelle, une religion, n'est pas une fin en soi. c'est un moyen. Ce sont des pratiques et des méthodes qui conduisent au développement spirituel de l'individu. Les pratiques même qui aident au début peuvent devenir une entrave au développement. Ce qui était une voie est devenu une prison. Par exemple, la méditation. On peut commencer plein d'enthousiasme, on a des expériences profondes, on se découvre, on semble comprendre un peu mieux un sens de l'existence, et on change pour le mieux. On devient plus patient, plus concentré, plus calme, plus capable de choisir, plus avoir un sens de contrôle dans sa vie, de choix. Donc on continue. Tous les jours, pendant longtemps, et on continue à méditer tous les matins, disons, longtemps après que la méditation ait cessé d'avoir un effet positif. On ne sait même plus pourquoi on médite. La méditation est devenue rigide, morte, mais on a peur de l'abandonner, elle est devenue une habitude. Elle est devenue moi, ça fait partie de nous-mêmes. L'abandonner serait ne plus se reconnaître. Ce qui était plein de vie et un moyen d'atteindre le plus profond, de développer le plus noble en soi, est devenu un moyen de se cacher. Parce qu'on ne s'est pas aperçu que ce qui n'était qu'un moyen est devenu une fin en soi. Et c'est pour cela que le Bouddha dit de son enseignement qu'il est comme un radeau, quelque chose qui supporte, qui est utilisé pour une traversée, et que l'on laisse derrière plus besoin. Pas qu'on pense sur sa tête. C'est aussi pourquoi un maître bouddhiste zen dit à ses disciples pour qu'ils ne perdent pas de vue la raison d'être des pratiques religieuses. Si tu vois le Bouddha, tue-le. Voir le Bouddha, c'est la complaisance. C'est la complaisance spirituelle. C'est croire qu'on est arrivé, qu'on a tout compris. Et ceci nous cache en fait le Bouddha, nous empêche d'aller plus loin. Le tuer veut dire tuer en nous la fierté, l'ignorance, la peur de l'inconnu, la peur d'aller plus loin, la peur de la réalité. Donc pour conclure, sans entraver votre foi, votre imagination, votre enthousiasme, il est important de ne jamais perdre notre esprit critique. D'être prêt à tout remettre en question. Je parle d'une voie, mais une voie spirituelle n'est pas un boulevard bordé d'arbres. Ce n'est pas une autoroute avec des pancartes grosses et nettes qui indiquent Nirvana 100 km. Mais bien plutôt un chemin tortueux, à travers jungles et marais, que nous suivons souvent à tâtons et dans l'obscurité. Cette voie, c'est nous-mêmes. Et je vous souhaite de la suivre comme une aventure, passionnément, et d'arriver au meilleur de vous-même.
C'est... Je sentais vraiment une inspiration. c'est exactement ça que tu as dit. On peut vraiment prendre une pratique, ça fait des années, il y a une méditation, on fait ça tous les jours, la génétique à suivre, etc. Et des fois, c'est trop près. Et là, ce soir, permis un peu de voir ça un peu. On va ouvrir ça à vos questions.
Oui, oui. Commentaire.
Des réflexions.
Moi, je veux bien m'exprimer. Quand je vous entends parler, en fait, je ne suis pas du tout initiée au bouddhisme. Mais tout ce que vous avez dit, en fait, ce sont déjà des questions que je me pose, sans connaître le bouddhisme. Alors, est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est vraiment une religion? Est-ce que, je ne sais pas, c'est un peu...
Oui, parce que là, je ne dis pas ce qu'est le bouddhisme. L'exposé, c'est en quelque sorte comment choisir une voie spirituelle, chacun choisit la sienne. Et maintenant, vous voulez, qu'est-ce que le bouddhisme? Est-ce que c'est la question que vous posez? C'est une voie, justement. Le bouddhisme, c'est une de ces façons de changer. Ce sont des méthodes, des pratiques qui nous emmènent, disons, au plus parfait de nous-mêmes, au meilleur de nous-mêmes, pas à pas, sans arrêt, disons, s'améliorer à l'infini. Donc on peut dire que le bouddhisme, c'est toutes ces pratiques qui, comme je dis, de la pratique, tout simplement de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à ce qu'on parle, la pratique d'une conduite d'éthique qui est basée sur la non-violence, de faire mal à personne, faire mal à soi-même. Tout ça font partie de ces pas, disons, sur une voie qui nous conduit au meilleur de nous-mêmes. Sans qu'il y ait ce meilleur, il peut être là, au plus loin, on a en quelque sorte une vision qu'il y a plus en nous, qu'on peut se développer en quelque sorte indéfiniment. Et donc le bouddhisme sont toutes ces méthodes qui conduisent à ça. De façon très générale, hein. On peut pas mettre. Il y a des livres écrits comme ça, il y a des écoles différentes de bouddhisme. Mais juste pour vous donner une idée que c'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qui se suit et qui amène à une amélioration sans arrêt continue, qui conduit à l'opposé, donc de la haine, de l'attachement, du désir, la convoitise. De l'ignorance dans le fait d'être aveugle, de ne pas être clair ou d'avoir des pensées fausses, et qui remplace ça par la sagesse graduelle, la générosité, la bonté.
Je comprends la question en fait, parce que c'est vrai que c'est pas évident, c'est parce que choisir une voie, c'est très bien, mais bon. Il faut se donner, même de prendre le chemin, c'est très difficile avec des questions comme ça. Moi j'ai toujours du mal. Moi c'est censé être le sujet du mal.
Oui, tu donnes la.
Qu'est-ce que c'est le bouddhisme?
Qu'est-ce que le bouddhisme, oui.
Merci.
Remets de main.
La vie pour là.
Oui.
Mais c'est parce que bon, quand le bouddhisme est essentiellement quelque chose de pratique, quelque chose d'expérience, donc c'est très difficile de donner un sens à quelqu'un d'autre, seulement avec des paroles.
Oui.
Peut-être on peut approcher avec la poésie, peut-être. Exprime ça très bien, il donne un certain sens. J'ai toujours trouvé, c'est pas une bonne chose en fait, que mes paroles, c'est. Parce qu'on a tellement d'esprit qui tendance à transformer ce qu'on entend. On filtre beaucoup, mais on voilà, on interprète, c'est-à-dire bon, on accepte ce qu'on dit d'entendre et on est inconsciemment parce que quand on dit c'est pas le problème. C'est pour ça qu'une conférence comme ceci est c'est un grand défi, ce point de vue, d'exprimer ça. C'est pour ça d'ailleurs on a un peu structuré ce week-end, un peu ce soir, une conférence, il n'y a pas vraiment d'engagement. Et que demain, c'est plutôt pratique, c'est plutôt une sorte de méditation, discussion plus sur le sujet, plus sur le rythme. J'ai institué ça exprès, comme ça, si vous pouvez revenir demain, ça sera plus attaqué un peu mieux que bête.
Ces mots quand même évoquent, comme je disais, comme une réponse de ou lire, je disais des textes bouddhistes, et vous savez, est-ce que ça touche quelque chose? Ça, c'est pas censé que ça touche que la raison. Quelque chose qui sait que... c'est vrai.
Ouais, l'intuition.
Oui. Puisque moi j'ai appris à faire confiance en cette intuition. En quelque sorte, il est aussi important de ne pas la négliger ou de ne pas en avoir peur. Tout est-ce que ça vient ou c'est pas assez, si c'est pas, disons, approuvé ou même prouvé par ma raison, je n'agis pas dans ce qui est de plus profond, sur ce qui est d'après ce qui est de plus profond, plus noble en moi, la vision. C'est à ce moment-là. ben, disons notre enfin, on la développe pas, hein, on la rend, ce qu'il y a de beau en nous, on le rend en quelque sorte. On ne développe pas cette faculté, et plus on la développe, plus elle devient présente dans la vie, et plus elle devient ben, de moins en moins séparée de la raison. En quelque sorte, c'est la réponse de l'émotion, c'est la réponse émotionnelle, c'est la réponse de la foi, et elle n'est pas finalement séparée de la réponse raisonnable, de la réponse intellectuelle. Elle donne simplement l'impression d'être séparée. Donc, en quelque sorte, je dis, je n'allais ni que d'un côté de la tête, ni que par le cœur, ni que par la tête, mais les deux doivent être respectés. Et si les deux sont d'accord, eh bien, on a déjà un peu plus de chance, avec en plus de ça les amis. Ben là, l'expérience, donc ça nous donne notre raison, ce qu'on sait avec notre intellectuel, ce qu'on sait, disons, avec le cœur, les amis et l'expérience, on peut penser à tâter une voie ou une autre, dans un inquisiteur.
Il faut se forcer un peu aussi, je pense. Enfin,
se forcer dans le sens de...
Bah, on a toujours peur au début. Donc tu dis l'orteil inquisiteur.
Oui.
Mais même de mettre l'orteil inquisiteur, parfois on peut se rétracter. Parce qu'on ne peut pas... C'est mon expérience aussi. J'habite en Angleterre aussi et je suis le mouvement. Et au début, ça me faisait énormément peur. Je mettais mes orteils, mais je me disais... Je ne peux pas m'engager là-dedans parce que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout.
Mmh.
Mais maintenant que je me suis forcé un peu, quand je me suis poussé un peu, fait un peu mal pour rentrer dedans, bah, je m'aperçois que de toute façon, à chaque fois qu'on prend une décision, on s'engage là, envers quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose de complètement inconnu. Mais si on ne prend pas de risque, si on ne se force pas, on ne fait jamais rien.
Oui.
Et c'est uniquement en se forçant, en prenant un peu de risque et en s'engageant vers quelque chose qui semble un peu inconnu, mais qui répond, qui résonne un peu à l'intérieur, que bon, bah, on obtient des résultats. Et je dois dire que ça fait un an et demi maintenant que j'ai commencé à... J'espère que j'ai mis un peu plus que les orteils maintenant. Je me rends compte par discussion avec mes amis ou juste en réfléchissant sur mon propre compte que j'ai vachement changé, quoi. Que j'ai fait le bon choix, quoi. Alors je continue à me forcer un peu pour pousser un peu plus à repousser les limites de la peur.
Oui.
Parce que je crois que c'est la peur qui nous domine le plus.
Oui.
Et qui nous empêche de faire qui nous empêche de progresser.
Oui. C'est un bon point. Mais il est aussi important d'aller à son rythme. Hein. Se forcer, oui, c'est-à-dire oser.
Mmh.
Autrement, on dirait...
Ah, pas trop non plus.
Mais pas trop non plus, parce qu'autrement... Disons que nous pratiquons tous la méditation, le chemin, disons, les stades de sur cette voie, si on continue l'analogie de la voie pour le bouddhisme, sont les mêmes. Mais c'est pratiqué par des Tibétains. Donc les Tibétains, ils ont un certain tempérament, ils ont une certaine histoire. Et chaque fois que le bouddhisme est allé dans un pays, il a des entrées. Et quand le bouddhisme est allé au Japon, il n'est pas, enfin, il est parti des Indes au Tibet, il a changé. Il est parti des Indes à la Chine, il a changé. De la Chine au Japon, il a changé. C'est-à-dire que le bouddhisme occidental, c'est un bouddhisme qui est pratiqué par des occidentaux. C'est-à-dire que nous cherchons la façon de... Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de pratiquer ces mêmes méthodes, cette même genre de méditation, mais pas dans le Tibet du 800 de notre ère, mais pas une française ou un anglais, dans le 20e siècle. Et en fait, quand la façon de pratiquer le bouddhisme en France sera différente de la façon de le pratiquer en Angleterre aussi, parce que ça va être pratiqué par des Français. Donc c'est ça qui change la couleur, disons, du bouddhisme. Aussi, plus il est pratiqué longtemps dans un pays, plus il se mélange avec avec la culture du pays, avec le folklore même du pays. Et quand le bouddhisme voyage, quand le bouddhisme tibétain vient, disons, en France, il est important aussi de voir qu'est-ce qui est vraiment du bouddhisme et qu'est-ce qui fait partie du folklore tibétain, qu'est-ce qui fait partie de leur culture. Si tu peux ajouter aussi.
Je peux dire, bon, essentiellement, il n'y a pas de différence dans les questions du bouddhisme. Le bouddhisme est quelque chose qui est très intéressant qu'on voit dans le monde bouddhiste, en fait. Il y a beaucoup d'écoles différentes. Même dans ce pays, il y a plein d'approches différentes, même de façon de penser, parce qu'il n'y a pas de dogme dans le bouddhisme. On n'est pas obligé d'adhérer un dogme pour être bouddhiste. Il y a toujours des évolutions, c'est-à-dire on a vu ça partout dans le monde, plus on a un Tibet, Chine, Japon. Il y a une évolution selon l'époque. Et on voit, bon, il y a des gens qui disent, bon, moi je vois la pensée de Bouddha comme ça. Il n'y a jamais de guerre dans le bouddhisme parce qu'il n'y a pas de dogme à défendre. En fait, il n'y a personne qui peut dire vraiment j'ai la vérité. Ils peuvent dire simplement j'ai la façon de voir de l'illumination du Bouddha et qui me convient, c'est-à-dire qui marche pour moi. J'adhère. Mais il n'y a pas un bouddhiste qui peut dire moi j'ai raison et les autres ils ont tort. C'est des mauvais bouddhistes, etc. C'est un concept qui n'existe pas, ce genre de problème. Mais en même temps, il y a tellement de points de vue divergents. C'est très intéressant d'avoir ça. C'est quelque chose qui est assez rare. En général, en Occident, on voit ça dans l'histoire des religions en Occident, on n'est pas d'accord jusqu'au point de faire la guerre parce qu'on ne peut pas avoir deux vérités. Le bouddhisme, ça peut exister comme ça, parce que la vérité, en fait, c'est pas dualiste, ça transcende tous les points de vue. Finalement, on accepte ça. Donc, essentiellement, entre les bouddhistes et nous, notre monde, il n'y a pas vraiment de différence dans un premier point essentiel. Plein de points de vue qu'on a, et on peut communiquer entre nous facilement. Même notre fondateur, si vous voulez, initié dans les écoles tibétaines. Donc il y a une chose dans les écoles tibétaines. Mais initié dans d'autres écoles aussi, non tibétaines. Et celui aussi, il est anglais. Donc je crois que ça lui a permis de voir. Je crois qu'un avantage qu'on a en Occident avec une démarche scientifique et la possibilité de voir les choses avec le recul, l'histoire. C'est quelque chose de très moderne, ça, de recherche dans le passé. C'est très récent, en fait, quand on voit l'histoire. Même il y a 100 ans, en ce qui concerne le bouddhisme, il y avait quelques personnes qui avaient des possibilités de surveiller toutes les écoles du bouddhisme et voir où il y a des points communs. Tout ça. C'est vraiment une recherche qui a été faite de façon scientifique. Qui nous a permis maintenant de dire, voilà, bon, il y a le bouddhisme tibétain, il y a Zen, il y a Theravada, etc. Bon, on peut les regarder tous parce qu'on peut les voir avec notre habilité maintenant d'avoir un sens de l'histoire. C'est pareil pour toute chose, mais avec l'accès à l'information qu'on a. On a la capacité de voir l'histoire avec un recul qu'on n'a jamais eu. Très intéressant. Que les écoles bouddhistes n'ont jamais eu non plus. Donc pour les Tibétains, qui étaient très enfermés au bout d'œil, le bouddhisme tibétain a développé quasiment d'une seule école du bouddhisme et qui a développé là-dessus. En fait. Et en même temps, il y a des choses qui se passaient au Japon, en Chine, etc. Il y avait très peu de communication sur ces écoles. Donc ils sont tous développés un caractère assez particulier. Et ce qu'on a de possibilité maintenant, c'est de regarder l'information qui existe, regarder tous ces écoles et dire bon voilà, où est les synthèses. Des éléments ensemble et qu'est-ce qu'il y a qui est purement culturel, qu'est-ce qu'il y a dans le bouddhisme tibétain par exemple qui est vraiment l'essentiel du bouddhisme, l'enseignement du Bouddha, et c'est évident qu'il y a autre chose dans le bouddhisme tibétain qui est purement culturel et qui vient pas forcément du bouddhisme. Il y a des gens préexistants qui viennent d'autres influences. Et là, on peut dire, bon, voilà, peut-être c'est le moment de dire, bon, ça c'est peut-être cet aspect-là, c'est plus intéressant pour les Tibétains. Et nous, en Occident, on n'a pas eu cette expérience de vie. Donc, on peut dire, bon, prendre l'enseignement du Bouddha et mettre ça avec notre propre expérience de vie. L'éducation à l'école, notre vie de tous les jours, toute l'information qu'on a acquise sur les cultures. Et on met ça avec l'enseignement du Bouddha pour voir qu'est-ce que c'est. Et c'est ça le bouddhisme occidental. Mais on n'est jamais au point, on ne va jamais dire bon, les tibétains, c'est une. Mais bon, même pas on n'a jamais dit ça. Mais il y a toujours un respect très culturel. Et c'est notre approche, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient, c'est qui vient de notre expérience, qui surgit. Je ne sais pas.